On va débuter la soirée avec peut-être 5 minutes de retard. Faut pas croire la pendule là-haut, elle avance. Donc, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on est schiste sur les gaz de schiste? C'est comme ça qu'on a voulu traiter par l'humour un petit peu le thème de la soirée. C'est Jacques Ambroise qui nous l'animera et qui se présentera donc tout à l'heure quand il prendra la parole. Voilà, donc Gégé Dabubi.
Alors en partenariat avec la Maison du Livre, la table ce soir nous présente une sélection de petits bouquins qui sont en rapport avec, pas que les gaz de schiste, on va élargir, avec disons tous les maux que le genre humain fait subir à notre planète. Alors à ce sujet-là, moi j'aurais une petite réflexion à faire, qui touche un peu à des questions philosophiques, certes, mais qui seront peut-être le sujet d'un prochain jeudi en question, d'ailleurs. Quand on dit sauver la planète, il faut sauver la planète. Bon, ben, il faudrait peut-être revoir un petit peu cette notion-là, parce que la planète, en fait, moi j'estime qu'elle est invulnérable. Elle s'est toujours rétablie, transformée, a évolué, des espèces disparaissent, les climats changent, elle a subi des glaciations, des cataclysmes, tout un tas de choses. Et ce que je pense, c'est que c'est quand même l'homme qui est son propre prédateur. Et qu'à terme, c'est quand même la question de quel environnement on va laisser à nos enfants qu'il faudrait avoir en tête. Parce qu'on est dans une espèce d'exploitation des ressources. L'homme est son propre prédateur, les guerres en sont l'exemple, l'exploitation de l'homme par l'homme un autre, toutes ces questions-là sont l'exemple vraiment de ce que... Il y a peut-être quelque chose de suicidaire, hein, je vais jusque-là. Bon, voilà, et à terme, c'est peut-être l'espèce humaine qui disparaîtra, mais pas la nature. La nature, elle se rétablira toujours. Ben voilà, ça on n'en a pas parlé, hein, c'est quelque chose que je livre comme ça en réflexion.
Au niveau des humains, parce que la planète...
La planète, elle se ressourcera toujours, elle évoluera, les espèces évolueront, les dinosaures ont disparu, les scorpions survivront, etc. Je veux dire, il y aura toujours une transformation des climats.
C'est une vision très optimiste.
C'est une vision optimiste pour la nature, mais pas tellement pour l'humanité. Hein, voilà. Bon, mais je ne voudrais pas plomber non plus, je vais dire même schister la soirée. Hein, on peut changer d'expression, on dit plus plomber maintenant, on dit schister. Hein. Donc, je vais continuer à schister un petit peu quand même, dans la présentation rapide que je vais faire des livres. Alors, j'ai donc des livres, Ma base sur la Terre, je ne vais pas les présenter un par un. Le marché des matières premières, alors ça va tisse large, hein. Le mythe du trou de la sécu. On achète bien les cerveaux sur la publicité et les médias, comment est-ce qu'on exploite, on conditionne les gens dans un esprit de consommation et de profit. Des bouquins de journalistes aussi, avec Kempf, Fabrice Nicolino encore, comment les riches détruisent la planète. Là aussi, tiens, on parle de détruire la planète. Bidoche de Nicolino, pesticides, pareil, une référence. Donc voilà, ça c'est ce qui plombe un peu, ce qui schiste encore un peu les choses, la vision des choses. J'ai des ouvrages plus optimistes. Ben, j'ai Pierre Rabhi, que tout le monde connaît, hein, pour la sobriété heureuse. Ou dans le même genre, c'est Serge Latouche, Société d'abondance frugale. C'est des gens qui ont des idées, des idées sur des transformations de notre rapport à notre environnement et de nos rapports humains et qui seront peut-être dans l'avenir entendus. Alors j'ai Rémi Rifkin aussi, qui est très controversé, ça c'est un best-seller, hein, c'est la troisième révolution industrielle. C'est pareil, c'est plein d'optimistes et c'est quelqu'un qui est très controversé, mais qui a quand même un impact, qui est le conseiller de pas mal de gouvernants en place, et qui est un économiste, hein, et qui a vendu ce livre-là, qui fait autorité. Hein. Donc voilà, j'ai aussi l'association libérale de changement d'énergie, de transition mode d'emploi. Ça c'est pareil, c'est une vision vers les énergies renouvelables. J'ai ça aussi, les nouvelles énergies pour les nuls.
très bien ce type de terrain. Il est simple et bien documenté, explicatif. Donc voilà, je ne vous en parle pas plus longtemps. Si vous voulez en savoir plus, vous venez à la table des livres pendant la pause ou après, et on en parle. Et bien évidemment, je vais passer la parole à Jacques, qui va nous présenter son livre, qui est le mieux placé pour le faire. Voilà, la dernière publication au fait de l'actualité et qui informe véritablement sur le point. Je passe la parole à Jacques. Merci.
Merci. Je me présente donc Jacques Ambroise. Je suis membre de l'association ATTAC. Pour ceux qui, s'il y en a qui ne me connaissent pas, ATTAC, c'est donc une association altermondialiste qui est présente dans 40 pays à travers le monde et qui a été une des premières associations à alerter sur les incidences néfastes de la finance mondiale dérégulée. Et qui, par ailleurs, travaille sur la prise de reconquête des pouvoirs et des multiples pouvoirs. On en parlera à travers les gaz de schiste, par les citoyens. Hein? Ces multiples pouvoirs confisqués par, entre autres, la finance. Je suis également membre du collectif non-gaz de schiste Ouest Aveyron, qui correspond donc à la zone géographique du permis de Cahors, qui était un des plus grands permis de France avec plus de 4 500 km². Celui de Beaumont-de-Lomagne faisait plus de 10 000 km² et, donner une échelle, l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, c'est 45 000 km². Il y avait 22 000 km² qui étaient impactés par des permis de permis pour l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels. C'est d'ailleurs ATTAC qui, dans beaucoup de régions, a été à l'initiative de la création des 260 collectifs, peut-être même un peu plus, qu'il y a actuellement encore en France. Et qui, pour certains, restent très actifs et très vigilants parce que la situation, on verra par la suite, est quand même assez préoccupante. Voilà. Alors, ce livre, pourquoi ce livre? Parce que, c'est une proposition qu'on m'a faite à l'occasion d'une conférence que je donnais à Biocibel l'année dernière, et à laquelle d'ailleurs au départ j'étais un petit peu réticent, mais finalement, l'industrie avec la complaisance des médias sont revenus, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc à la charge l'année dernière, à peu près au mois de juillet-août. Et là, je me suis dit, il faut vraiment informer les populations, parce que beaucoup ont entendu parler des gaz de schiste, évidemment, mais peu savent quels sont véritablement les enjeux réels qui se cache derrière cette question. Et dans les médias, souvent, le sujet était abordé soit sous l'angle du remboursement d'une partie du déficit de la balance du commerce extérieur, soit sous l'angle des emplois, par exemple, ou sous l'angle de la poursuite d'un modèle de développement qui a trouvé son origine, en fait, dans la découverte du pétrole au début du 19e. Voilà ce livre qui a été tenu à jour jusqu'en mars à peu près, donc il est sorti fin avril, et depuis il s'est passé un certain nombre d'autres choses dont on parle. Donc là, pour la première partie, je pense que je vais rester sur des généralités. Hein, et puis, si après vous le souhaitez, on rentrera un peu plus dans le détail soit de la technique de fracturation elle-même, parce que moi j'ai toujours un peu de mal à savoir si les personnes savent vraiment ce que c'est qu'une fracturation, ce que ça engage. Et donc sur l'aspect juridique, hein, et puis toutes les autres incidences, et pour terminer, évidemment, on parlera de la transition, de l'indispensable et de la nécessaire transition énergétique relocalisée. J'expliquerai pourquoi, parce que ce mot est important.
Sans être abusive, est-ce que tu peux encore lever la voix, parce que ici, derrière, il y a des gens qui
pensent
comme ça.
Alors, je pousse. Voilà. Alors, donc, la découverte de richesses, entre guillemets, c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours synonyme ça sonne le glas pour les populations qui se trouvent sur les terres où on trouve ces fameuses minerais ou hydrocarbures fossiles. Pourquoi ? Parce que ce soit sur n'importe quel endroit de la planète. La plupart du temps, la disparition la violation des droits, des droits de la Terre, c'est la violation des droits humains, c'est souvent des déplacements, hein, des expropriations, c'est pas non plus aussi des guerres, des conflits, de la corruption, etc., etc. Et c'est une véritable guerre qui est menée pour l'accaparement de ces fameuses richesses. Un autre aspect aussi, c'est les catastrophes de l'ère pétrolière qui nous amènent aujourd'hui, entre autres aussi, à parler d'extinction d'écosystèmes, hein, de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité et de la mise en danger de l'ensemble de la biosphère. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, à propos, par exemple, quand on parle du réchauffement climatique, les scientifiques nous disent que nous avons passé depuis le printemps dernier les 400 parties par million de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était en Arctique l'été dernier, et puis plus récemment, là au printemps, la nouvelle est revenue. Et c'est sur l'ensemble de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire 400 parties par million de gaz à effet de serre? Bon, je vais rentrer dans le détail scientifique, c'est sur un volume donné d'un certain nombre de particules. Mais ça, concrètement, les modèles climatiques nous avaient dit que on devait rester en dessous des 2 degrés pour pouvoir rester dans une planète viable. Ça, c'était les modèles climatiques d'il y a à peu près une dizaine d'années. Et d'ailleurs, le paquet énergie-climat qui avait été mis en place à la suite du protocole de Kyoto, dans les années 97, je crois que c'était en 97, tenait compte de cette donnée. Au-delà, on ne sait plus vraiment vers quoi on s'engage. Or, 400 parties pour million de gaz à effet de serre, il faut remonter à 12 millions d'années en arrière, et là, à ce moment-là, ça correspondait à une température de entre 4 et 6 degrés. 4 et 6 degrés, ça veut dire que au niveau climatique, on ne maîtrise plus rien. On va vers des événements qui sont cataclysmiques et donc qu'on ne pourra en aucun cas, pas même la science, maîtriser.
Excusez-moi.
Oui.
4 à 6 degrés d'augmentation, en fait.
4 à 6 degrés d'augmentation par rapport à la température moyenne globale actuelle qui se situe aux alentours de 15 degrés.
D'accord.
Sur l'échelle de l'année. Voilà. Donc, évidemment, ce modèle de développement, qui par ailleurs a pu avoir sa raison d'être à un moment donné, après l'après-guerre, hein, jusque dans les années 80, on a parlé donc des Trente Glorieuses, là tout allait bien, on n'avait pas encore pensé à la finitude de la planète, on était dans une corne d'abondance, l'ascenseur social fonctionnait, enfin bon, il y avait bien effectivement quelques problèmes avec des pays qu'on appelait à ce moment-là encore sous-développés, mais grosso modo, dans la culture occidentale, tout le monde était à peu près servi, on va dire. Bon. Et malheureusement, donc depuis les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 73, il y avait déjà eu une première alerte, il y a eu un gros choc pétrolier. Hein, pour ceux qui se souviennent, des kilomètres de voitures qui faisaient la queue aux pompes, les gens dormaient dans leurs voitures pour pouvoir, etc. Donc il y a eu deux, trois alertes quand même un peu importantes, qui n'étaient pas d'ailleurs liées qu'à des raisons, c'était des raisons surtout économiques, hein, avec l'OPEP qui avait bloqué par rapport aux Américains. Qui imposait donc à ce moment-là, donc qu'on voulait imposer, donc, et qui ont imposé que tout le pétrole soit payé en dollars. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, on sait que les recherches sont épuisables, donc il y aura forcément une fin. Le problème par rapport aux hydrocarbures non conventionnels. Bon. Moi, je suis resté sur l'appellation commune, gaz de schiste. Il faut savoir que sur le schiste, il y a également des huiles et du pétrole, notamment dans l'est de, du bassin parisien. Hein, là, c'est le gaz, lui, c'est plutôt pour tout ce qui est la partie sud, sud-est et sud-ouest. Donc, là, on est sur donc des hydrocarbures de schiste, mais dans ce qu'on appelle le non conventionnel, on trouve également des gaz de houille, on trouve des sables bitumineux et on trouve des hydrates de métal. C'est-à-dire, hydrate de métal, c'est du métal comme le gaz de schiste, sauf qu'il est emprisonné dans la glace, notamment dans le permafrost en Sibérie. Donc toute cette palette là fait partie de ce qu'on appelle les gaz non conventionnels qui font appel à des techniques donc la fameuse technique de fracturation hydraulique qui est, moi je le dis, une technique de l'extrême puisque on va chercher jusqu'à actuellement 4000 mètres de profondeur sur terre ferme. Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, ils étaient quasiment à 10 000 mètres de profondeur. Donc c'est une technique de l'extrême qui est mal maîtrisée et qui génère des incidences catastrophiques. Certains d'entre vous peut-être ont vu Gazland, ce fameux documentaire qui nous a tant aidé d'ailleurs, hein, parce que sa venue est à peu près coïncidée avec le moment où on a appris que Jean-Louis Borloo avait signé des permis, une soixantaine de permis, sans que personne ne soit informé. C'est d'ailleurs Fabrice Nicolino qui a révélé cette affaire, et entre autres, donc les premiers forages devaient se passer autour de Villeneuve-de-Berg, même les élus, les maires, n'était pas informé. Ce n'est absolument pas de quoi il était question. D'où cette mobilisation importante qui a, pour un temps, réussi à faire reculer le gouvernement et les pétroliers qui s'attendaient absolument pas à cette mobilisation. Là, on avait affaire à des technocrates qui, justement, avaient pris leur modèle sur ce qui se passait aux États-Unis, donc juste au sortir de la guerre, hein, mais bon, à ce moment-là, aux États-Unis, c'était une économie de guerre aussi. Hein, mais bon, donc, l'agriculture industrielle, le nucléaire, tout ça, ce sont ces technocrates qui sortent de l'école des mines, hein, Bonnes et Chaussées, et qui sont... ont des qualifications interministérielles, enfin bon, et qui traversent d'ailleurs les gouvernements, enfin ils sont toujours en place, quoi. Et pour eux, l'extraction de ces hydrocarbures non conventionnels, ça coulait de source, puisque de toute façon les États-Unis l'avaient fait, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas. Hein. Donc bon, voilà. Et, mais heureusement, ils avaient 10 ans d'avance devant, par rapport à nous, et donc on a vu et on voit maintenant encore ce qu'il se passe. Un autre gros problème, c'est la puissance, évidemment, qu'ont acquis ces compagnies pétrolières et gazières pendant tout ce XXe siècle. Et aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement préoccupante, et préoccupante en termes de démocratie, parce que ces multinationales sont devenues plus puissantes que les États. Aujourd'hui, ce sont elles qui font les lois. Elles les font à Bruxelles, mais elles les font à travers les accords de libre-échange, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Hein. Le Canada, lui, est en train de discuter. Alors, le Canada, j'en parle dans mon bouquin, c'est un paradis fiscal et juridique pour 60% des compagnies minières ou pétrolières de la planète. Pratiquement 60% des plus grosses compagnies, de toutes les compagnies, ont un siège à Toronto et bénéficient donc de la protection juridique mise en place par le Canada. Alors le Canada négocie un accord avec la Commission européenne, donc qu'on appelle l'accord économique et commercial global. Les États-Unis négocient aussi un autre accord qui, lui, alors, découle directement de l'accord de libre-échange qu'on a appelé l'ADENA, c'est-à-dire accord commercial aussi, donc entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, donc c'est Amérique du Nord, et la Commission européenne. La Commission européenne, elle, négocie avec certains pays d'Amérique du Sud ces accords de libre-échange également. Donc enfin bon, voilà, tout ça, ça est en train de se mettre en place. Et donc comme la plupart du temps, ce sont les multinationales qui font les lois, hein, et qui, parce qu'elles demandent à ce qu'on leur crée un climat favorable pour les affaires, etc. Il y a vraiment des inquiétudes, parce que maintenant elles sont en mesure d'attaquer les États. Et quand je dis attaquer les États, c'est-à-dire attaquer les constitutions. Hein ? Et normalement, dans un système démocratique, la constitution est l'expression du peuple, hein, rédigée par des juristes, etc. Mais enfin, c'est quand même l'expression du peuple. Donc aujourd'hui, on a en France, souvenez-vous, donc en 2011, Nicolas Sarkozy avait envie de venir un petit peu dans la région, mais bon, c'était chaud, évidemment, puisque il y avait des permis, celui de Nantes, celui de Montélimar et celui de Villeneuve-de-Berg. Donc il a abrogé ces trois permis là pour pouvoir se déplacer à peu près en tranquillité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas abroger un permis comme ça. Enfin, un permis qui a été attribué, hein, on ne peut pas l'abroger comme ça. Évidemment, première réaction des compagnies, enfin notamment de cette compagnie texane, c'est que elle a porté plainte, posé un recours auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Une petite précision quand même aussi, on pourra y revenir, mais quand on nous parle aussi d'indépendance énergétique, il faut savoir de quoi on parle. 100% des permis attribués en France, ou des demandes de permis, ne sont que par des compagnies étrangères. Il n'y a aucune compagnie française qui a déposé un permis. Pourquoi ? Parce que ce sont les compagnies américaines qui détiennent tous les brevets. Que ce soit sur la technique de fracturation, que ce soit sur les fluides de fracturation. La seule qui avait un permis, c'était Total, permis de Montélimar, mais Total était adossé à Devon. Donc c'était un partenariat, donc voilà. Mais donc, tous les permis sont attribués à des compagnies étrangères. Donc l'indépendance énergétique, ça reste un mystère. Alors pour revenir sur, cette histoire donc des compagnies qui attaquent les États, Chupa, qui est une compagnie texane, a donc posé recours auprès du tribunal administratif. Le ministère de l'écologie et du développement durable a déposé un mémoire argumentant sur les incidences néfastes de la technique de fracturation et pourquoi, mettant en avant des éléments de la charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution, etc. etc. Le tribunal administratif a estimé que le mémoire était trop faible, donc a suivi le recours de la compagnie. C'est donc monté au Conseil d'État qui vient, il y a deux jours, de rendre son avis en disant « Ok, on porte la question au niveau du Conseil constitutionnel ». Là, ça devient vraiment très très inquiétant parce que si le Conseil constitutionnel suit les recours de cette compagnie, c'est la loi du 13 juillet qui tombe et on sait qu'ils sont dans les starting blocks, ils sont prêts à y aller. On a déjà vu des camions vibreurs. Donc c'est les camions qui vont sonder les différentes couches géologiques, etc. Entre Cahors et Caussade, Béziers, Montpellier, etc. Ils sont prêts à y aller. Donc là, ça devient vraiment très très inquiétant, quoi, parce que même les sondages, enfin tous les sondages disent que 75% de la population française est contre. Et là, ils travaillent en fait en réalité depuis juillet 2011, puisque c'est là, à cette date-là qu'a été prise la loi interdisant la fracturation hydraulique. Depuis, il travaille à l'acceptabilité sociale. Donc, comment faire en réalité pour amener la population à accepter ce désastre? Désastre environnemental, désastre sanitaire. Alors, est-ce que, par exemple, une des questions, il y a un livre qui est paru, qui n'est pas là, mais de Thomas Porcher, qui est un économiste, qui a travaillé sur la question de la rentabilité. Le problème, c'est que il y a quasiment pas de rentabilité en termes d'exploitation, parce que à chaque fois que on fracture la roche, il remonte à peu près entre 20 et 30% seulement d'hydrocarbures. Hein, dès la fin de la première année, là je vous cite des chiffres qui sortent d'études, hein, qui ont été réalisées donc depuis une bonne dizaine d'années sur les quelques 500 000 puits qu'il y a aux États-Unis. Donc on sait que la rentabilité peut chuter en moyenne de 60 à 90% dès la fin de la première année. Alors actuellement, donc il y a une bulle spéculative qui est aussi, ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous, en train d'exploser aux États-Unis, un peu à la manière des subprimes, les compagnies, les États-Unis sont rués vraiment sur cette nouvelle manne, par ailleurs, il y a la Chine, il y a la réfaction des ressources, donc ils sont vraiment, ils sont allés à fond là-dedans. Alors, aux États-Unis, le propriétaire d'un terrain est propriétaire du sous-sol également, jusqu'au centre de la terre, hein, ce qui n'est pas le cas en France. Les compagnies ont dû payer des concessions, et donc elles ont gonflé artificiellement. Les estimations de gaz, enfin d'hydrocarbures, etc. Elles ont surestimé la création d'emplois. Enfin, bon, tous les arguments que j'imagine un jour ou l'autre tout à chacun a pu entendre. Elles ont créé une bulle pour faire venir des capitaux. Un exemple, c'est que, par exemple, une des plus grosses sociétés donc, de l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels, qui s'appelle Chesapeake, avait collecté comme ça plus de 16 milliards. Fin 2012, Chesapeake a dû vendre pour 7 milliards d'actifs. Parce qu'ils sont en train de se prendre un bouillon. Parce que là, le prix d'extraction aussi était extrêmement élevé, que dans le même temps d'ailleurs, le prix du gaz a baissé. Et il a fortement baissé. Donc, ils ont dû vendre là pour 7 milliards d'actifs, ce qui n'est pas rien. Exxon ou Shell ont, sur les trois derniers trimestres de 2012, perdu 25% en bourse, quoi, au niveau de l'extraction là, sur les hydrocarbures. Total, qui est présent aux États-Unis également, donc a dû faire une provision de 700 millions de dollars d'actifs. Hein. C'est pas l'Eldorado qu'on nous a présenté. Alors, une différence majeure, évidemment, avec les États-Unis, c'est parce qu'on a tous aussi été bercés par les grands horizons des westerns, hein, Colorado, Dakota, etc., etc. Alors, ils ont pu, pendant un certain temps, pour combler d'ailleurs le déficit de rentabilité, creuser des centaines de milliers de puits. Hein. Aujourd'hui, donc, c'est plus de 500 000 puits. Je crois qu'en une année, c'est aux alentours de 50 000 puits qui se creusent. Hein. Donc, parce que dès que le puits se tarit, en fait, bah, il faut forcément en recreuser un autre pour avoir une rentabilité commercialement exploitable. Le problème, c'est que c'est pas envisageable chez nous. On a une densité de population qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis. C'est pareil, au niveau des paysages, on n'a pas des États quasi désertiques. Donc là, ça va poser un problème en France. Ça pose de toute façon déjà un problème au niveau de la Pologne, par exemple. Je sais pas, vous avez dû en entendre parler. Là aussi, on avait des gisements où on allait... avoir un siècle d'indépendance énergétique, parce que la Pologne, elle veut sortir de l'emprise de Gazprom, de son grand frère russe, hein. Donc ils se sont lancés à fond effectivement aussi dans l'affaire. Le problème, c'est que là encore, sur 45 puits qui ont été creusés, puits d'exploration, 12 seulement se sont avérés commercialement rentable, doucement. Hein. Bon. Mais ceci dit, en ce moment, en Pologne, la population se rebelle. Et là, Chevron, ils veulent absolument pas que Chevron s'installe sur le terrain. Donc là, ils rencontrent également une opposition importante. Donc voilà. Alors,
j'ai pas du tout regardé le temps, etc. Mais bon, voilà.
Alors, bon, rapidement, alors bon, voilà, on vient d'évoquer la bulle spéculative. Si, faut que je vous dise quand même une chose. C'est que ces multinationales qui sont devenues plus puissantes que les États touchent chaque année, à l'échelle mondiale, 750 milliards de subventions publiques. Nous subventionnons les compagnies pétrolières. Et il y a Michèle Rivasi, je ne sais pas si vous la connaissez, une députée Europe Écologie Les Verts, qui est au Parlement européen, qui a fait un scandale en 2012, l'année dernière, parce que l'Europe a détourné 30 milliards qui étaient destinés aux énergies renouvelables pour les donner aux compagnies pétrolières. Voilà, bon, l'état d'esprit un petit peu des choses. Voilà. Alors, sinon, on nous dit en France, et je m'arrête là, puis je peux répondre à votre question, on nous dit on va faire une technique de fracturation propre.
voire bio. J'ai entendu bio.
Ah, bon, oui, non. Parce que,
oui.
Au niveau de l'acceptabilité sociale, évidemment, on travaille sur les éléments de langage.
Oui.
D'ailleurs, on ne parle plus, par exemple, le patron de Total ne parle plus, lui, de fracturation hydraulique, parce que une fracture, c'est violent. Hein. Alors bon, on a parlé de stimulation, c'était déjà un peu mieux. Et maintenant, non mais... Oui, ça peut faire rire, ça fait rire. Parce que maintenant, il parle de masser les roches. Il parle d'un massage de roches, parce que c'est plus érotique. Voilà. Et d'ailleurs, on ne va plus parler de fracturation hydraulique, parce que le problème, c'est que donc, c'est des quantités astronomiques d'eau. Hein. J'en ai pas parlé, mais donc l'accaparement de l'eau. Hein. C'est 15 à 20 000 mètres cubes d'eau, donc 15 à 20 millions de litres d'eau, par fracturation, sachant que effectivement, il peut y avoir jusqu'à 15 à 20 fracturations par puits, et qu'il y a un puits tous les 3 ou 4 kilomètres. Et pour vous donner un ordre d'idée, 15 à 20 millions de litres d'eau, ou de, c'est la consommation d'une ville de 13 millions d'habitants. Donc l'équivalent, par exemple, de Paris, l'ensemble de la région parisienne, pour une fracturation d'eau potable, hein, douce, et qui est définitivement perdue. Parce que dedans, on y met de la silice ou des microbilles de céramique pour maintenir les fissures qui ont été, les fractures qui ont été faites par la fracturation ouverte, donc les laisser ouvertes pour que le gaz puisse migrer. Hein. Et puis, donc 500 à 600 produits chimiques. Alors là, il y a une controverse énorme aussi avec les pros, les tenants de l'exploitation, parce qu'en réalité, ils nous disent « Oui, mais non, on va réduire les produits chimiques, et puis finalement, c'est ce que vous trouvez dans votre alimentation. » Bonne chance, comme dirait Pierre Rabhi, bon appétit et bonne chance. Hein. Bon, en fait, en réalité, on ne sait pas. Parce que ce sont des secrets techniques et commerciaux, industriels. Même aux au Texas, en 2011, ils ont essayé de mettre en place une loi pour obliger les entreprises de révéler leurs produits. En fait, ils avaient simplement mis dans la loi que les entreprises pouvaient se prévaloir du secret commercial. Autant dire qu'il y a eu, je cite le chiffre, il y a eu 19 000 demandes d'exemption, évidemment, et qui sont rentrées dans les secrets commerciaux. Voilà. Donc, en réalité, on ne sait pas. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur des bassins de rétention, etc. Et il y a des toxicochimistes qui ont analysé les produits, et on s'est aperçu d'ailleurs, au passage, que dans ces produits, dans ces fluides de fracturation, on remontait des produits qui n'étaient pas à l'origine, qui n'avaient pas été injectés. Pourquoi ? Parce que les produits chimiques ont muté entre eux sous l'effet de la pression et de la chaleur terrestre. Donc on remonte des cochonneries dont on ne sait pas quoi faire. Hein. Donc cette eau, elle est définitivement perdue. Hein. C'est terminé parce qu'on ne sait pas aujourd'hui retraiter ces fluides de fracturation qui remontent avec des métaux lourds, avec contenant des sels minéraux importants et de la radioactivité.
En plus.
Alors c'est on les met dans des bassins de rétention qui peuvent aller faire jusqu'à 1 ou 2 hectares, hein, couverts avec de simples bâches plastiques, et on laisse s'évaporer. Pour aller plus vite, on vaporise dans l'air. Et quand tout ça ne suffit pas, à ce moment-là, ils réinjectent les fluides dans les puits qui sont taris, et advienne que pourra pour les générations futures, si ces fluides migrent par les fissures qui ont été provoquées, les discontinuités ou les failles géologiques qui existent naturellement. Donc, d'où les pollutions de nappes phréatiques, des aquifères profonds, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, sur les fluides de fracturation. Mais c'est pas terminé, parce que, évidemment, pour réaliser un forage, c'est à peu près 1500 camions. Hein, faut amener du matériel, il faut amener l'eau, il faut amener le sable, il faut amener les produits chimiques, il faut des installations qu'on appelle de condensat pour nettoyer les gaz qui remontent parce que les gaz sont mouillés, donc il faut réacheminer le gaz avec des gazoducs ou par camion, etc. Donc c'est, et là, je vous parle. Pour extraire du schiste sur un puits, c'est à peu près 440 tonnes de CO2. Votre voiture, elle consomme combien à peu près 100 grammes, non, je crois, ou kilomètres. Enfin bon, c'est bon, hein, voilà. Donc, c'est 440 tonnes, 150 000 litres de fioul.
Oui, mais ils consomment ce qu'ils vont
produire. Oui, mais alors on peut, là, on parlait du langage tout à l'heure, parce qu'en plus ils essayent de trouver une autre technique, c'est-à-dire qu'ils essayent d'injecter du propane pour aller chercher du méthane. Voilà, on marche sur la tête. Hein. Non, mais on marche sur... Voilà. Alors, voilà, alors, le bruit, la pollution, donc, quand on entend les tenants encore là, une fois de plus de l'extraction de ces hydrocarbures qui nous disent oui mais le méthane ça pollue pas, non, dans une combustion en laboratoire, ok, mais sinon là tous les éléments préalables à la fracturation et à l'extraction polluent énormément, bon voilà, hein. Ensuite après c'est 60 kg de CO2 par mètre forêt. Et comment ils descendent jusqu'à 1500 mètres, voire 4000 mètres, suivant la nature de la couche géologique, je vous laisse faire le calcul. Hein. Les problèmes sanitaires vont donc liés à la vaporisation ou l'évaporation de ces produits chimiques, la pollution donc des nappes phréatiques, on en a parlé, et des aquifères profonds, parce que souvent là aussi, ils nous parlent que de la nappe phréatique. Mais il faut savoir que, par exemple, que ce soit sur les causes du Cévennes, les causes moi j'habite sur le causse de Limogne, le Quercy, hein, etc. Il y a des aquifères profonds. Quand on discute avec des spéologues, eux-mêmes, ils connaissent très mal la nature de ces aquifères, qu'ils étudient, etc. Ils connaissent très très mal les réseaux, hein. Les causes, c'est un bruit. Les séismes. Donc ça aussi, ça a été étudié. Par exemple, une région comme l'Oklahoma, qui n'avait jamais connu de séisme de son histoire, a connu plus de 1500 séismes en 2011, dont c'était au mois de mars, de 5,7 sur l'échelle de Richter. Parce que, alors ça, ça a été expliqué par Michel Serran, qui est donc un géologue de l'université de Montpellier, puisqu'il y a des produits viscosants, gélifiants, etc. dans les fluides de fracturation. Donc en fait, les tensions accumulées au cours de milliers d'années dans certaines failles se trouvent être libérées et favorisées donc par les fluides de fracturation, donc du coup, séisme. Je rappelle d'ailleurs que par exemple en Angleterre, ils ont arrêté, alors qu'eux aussi se préparaient à l'exploitation des hydrocarbures de schiste, ils ont arrêté et pris un moratoire de 2 ans pour étudier parce qu'ils avaient été impactés également, alors par des séismes. Et évidemment, les compagnies disaient il faut faire la démonstration qu'il y a bien une corrélation entre la fracturation et les séismes, hein, comme les nappes phréatiques. Hein. Alors, nous, par exemple, au niveau des collectifs, on a demandé aux élus à faire ce qu'on a appelé un état zéro de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que si une compagnie s'apprête à forer, là, la collectivité fait des prélèvements d'eau en amont, parce que ça s'est passé à Foix, par exemple, il y a eu un forage exploratoire, 1 an et demi plus tard, la nappe phréatique était polluée, privant 8000 personnes d'eau, et à ce moment-là, la compagnie a dit « prouvez que c'est nous ». Et comme il n'y avait pas eu un prélèvement en amont, c'était impossible de démontrer que c'était bien lié à ce forage exploratoire. Ça s'est passé également en région parisienne. Hein. Donc voilà. Bon, et puis ensuite, après, la question, c'est que est-ce que on va accepter d'être colonisé par ces multinationales qui considèrent qu'en fait, en réalité, la planète leur appartient. Ils sont chez eux. Hein? Ça, c'est une question...
On va peut-être arrêter là sur la question hautement politique du sujet, avec une rampée. Qu'est-ce que, donc, finalement, la démocratie ? Voilà, alors donc on va prendre quelques minutes, le laisser un peu souffler, et puis on reprendra le débat.